Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large, dans des domaines vraiment très variés, la nutrition, l'aéronautique, l'entrepreneuriat, le développement personnel aussi, on est start-up dans la tech ou pas, le financement, le design, vraiment c'est assez large. Et j'essaie de publier un nouvel épisode une fois par semaine, vous retrouverez d'ailleurs toutes les notes du podcast, les livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast qui est en lien dans le descriptif de cet épisode. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur SoundCloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que certains d'entre vous le savent, ce podcast s'appelait précédemment Crème de la Crème, donc maintenant c'est Le Gratin. J'ai expliqué pourquoi dans l'épisode précédent avec Stéphanie Jiquel, que je vous recommande d'ailleurs d'écouter parce que Stéphanie est incroyable, donc je ne vais pas me répéter, mais pour ceux qui se posaient la question, oui, Le Gratin, c'était bien Crème de la Crème il y a quelques semaines encore. Je voulais enfin, et j'arrête de parler de tout ça, en profiter pour vous remercier et notamment remercier des très très nombreuses personnes qui ont mis un mot sympa ces derniers temps. Il y en a eu beaucoup beaucoup, ou une note aussi sur iTunes pour soutenir le podcast. Vraiment un grand merci à vous, ça m'aide énormément, vous êtes vraiment au top. Pour ceux qui n'ont pas évidemment franchi le pas, mais surtout si à la fin de l'épisode vous vous dites que le podcast n'est pas si mal, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide beaucoup. Voilà, bon, j'arrête de parler de tout ça. Aujourd'hui, mon invité est Grégory Pouy. Expert s'il en est en digital, créateur de l'agence La Marcatique, où il conseille les plus grandes marques comme L'Oréal, LVMH et j'en passe, aussi d'un blog, grégorypouy.com, du podcast Vlan, dont on va parler et que je vous invite d'ailleurs à écouter parce qu'il est top, mais aussi depuis peu de l'agence de création de podcast Plink ou d'un projet dans la blockchain. Donc il est vraiment sur tous les tableaux. Et pour ceux qui ne connaissent pas Greg, c'est un peu la référence en marketing digital en France. Il a été l'un des premiers influenceurs dans le domaine avec la création de son blog en 2005 et s'est rapidement fait remarquer par les marques notamment pour son expertise vraiment super pointue et ses opinions qui, il le dit lui-même, sont assez cash en général. J'ai voulu inviter Greg du coup pour deux raisons. Déjà parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est à son compte, qu'il vit la vie du digital nomade tel qu'on en rêve. Il est entièrement libre de partir faire un plongeon à la piscine à 11h un mardi s'il le souhaite. Il travaille de chez lui. Il peut faire 10 km de marche tous les jours et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Mais il m'a très bien expliqué que cette vie de un peu digital nomade donc a ses contreparties, celle d'être dépendant de son propre travail pour se payer à la fin du mois. Et comme je crois savoir qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent ce podcast, qui sont freelance ou qui envisagent de le faire ou qui ont lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est un peu l'ouvrage de référence dans le domaine, je me suis dit que ça pourrait les intéresser. Que travailler, voir l'envers du décor de ce qu'on appelle dans le jargon le lifestyle business, c'est-à-dire un métier fait pour s'adapter à votre rythme de vie, bah c'était quelque chose où vous auriez certainement du plaisir à écouter quelqu'un qui vit comme ça. Et donc j'espère que l'expérience et les réponses de Greg pourront beaucoup vous aider. Le deuxième point et la deuxième raison donc pour laquelle j'ai invité Greg, c'est que je vous avoue que moi-même je suis assez passionnée par tout ce qui est nouvelles tendances, ou plutôt si je précise les innovations de fond, notamment sociologiques, technologiques ou marketing. Et Greg, sincèrement, est un vrai expert dans le domaine. Il en a fait sa passion et sa vie. Donc j'avais plein de questions à lui poser. Du coup, on a tout autant parlé de ces nouvelles tendances que d'outils de veille pour les décrypter ou les découvrir. On a discuté de comment Greg organise son quotidien indépendant, des livres qui l'ont marqué, mais aussi de son parcours personnel, qui est une vraie leçon de vie. Celui d'un jeune homme qui était issu d'un milieu très humble en banlieue parisienne et qui, a priori, avait assez peu de chance, sincèrement, de sortir de sa communauté, mais qui, parce qu'il se sentait différent, métisse notamment, et qu'il voulait s'en sortir à tout prix, a fini par dépasser ses limites et inventer son propre métier. J'ai trouvé ça ultra inspirant et donc je suis vraiment ravie d'avoir eu Greg sur le podcast. Mais trêve de bavardage, je vous en dis pas plus, et comme j'ai maintenant l'habitude de le dire, je laisse place à ma conversation avec Grégory Pouy. Bonjour Greg.
Bonjour.
Merci beaucoup de m'accueillir.
Ben merci à toi.
Bienvenue sur le podcast.
Merci.
Écoute, j'ai pas mal lu de choses sur toi, j'ai pas mal écouté, là, c'est là que tu prends peur, et j'ai plein de questions à te poser en réalité, mais comme t'as aussi vachement parlé, je veux pas faire comme tout le monde évidemment, et donc je me suis dit que moi il y a un axe déjà qui m'intéresse énormément, on en a parlé un peu à demi-mot, c'est le fait que t'es ton propre chef, ton propre patron, ouais. Et déjà je voulais commencer en fait par te poser des petites questions justement sur le métier d'indépendant.
Oui.
Et notamment, alors j'ai vu, donc j'en ai parlé un peu dans l'intro, mais en gros, tu conseilles des marques en marketing digital via ton agence La Marketique. T'avais un blog Grégory Pouy qui existe toujours, je crois. Le fameux podcast Vlan dont on va parler. T'as depuis peu aussi créé donc cette agence que je trouve géniale qui crée des contenus justement pour des marques qui veulent lancer leur podcast,
ouais.
Qui s'appelle Plink, si
exactement.
Je ne me trompe pas. Et t'inquiète pas, je vais te laisser parler. Mais bref, tout ça. En fait, ce qui m'a vachement impressionné, c'est qu'on a l'impression que t'es sur tous les fronts.
Ah, je fais autre chose encore après.
Et, bon, alors tu vas me raconter. Et en fait, t'es tout seul, d'après ce que je comprends. Et ça, je me suis dit, plus ou moins d'accord, mais ouais. t'es quand même globalement assez peu entouré. T'as pas d'employé, d'après ce
non.
que je comprends. Tu peux avoir des associés.
Ouais.
Déjà, je voulais savoir pourquoi ce choix et comment tu fais.
Alors, pourquoi ce choix? C'est hyper égoïste. En fait, quand j'étais chez maintenant Sapiens Razorfish, j'avais une équipe. Et avant, chez Vangsun, j'avais une équipe aussi. Et en fait, ce que j'ai compris à cette époque, en tout cas, c'est que tu pouvais pas être manager et expert. Et à l'époque, moi, je préférais être expert. J'avais pas envie d'être... Enfin, c'est pas que j'avais pas envie d'être manager, mais c'est que j'adore les gens, vraiment. C'est... Mais je préférais être expert. Et du coup, je voulais pas... Enfin, j'étais bien tout seul, quoi. Et du coup, je travaille avec plein de gens. Ça m'arrive beaucoup de faire travailler des personnes avec moi. Mais j'avais pas envie d'avoir des salariés, parce qu'en plus, je travaille de chez moi. Et puis, quand t'es indépendant, il y a une question de liberté, mais c'est hyper fluide, en fait, que quand tu commences à avoir des salariés, déjà, tu vas pas les emmener chez toi. Enfin, tu pourrais, mais c'est quand même pas très classe. Donc, t'es obligé de prendre un bureau. Donc, ça fait des frais. Enfin, tout de suite, c'est vachement plus compliqué, alors que travailler avec d'autres personnes qui sont free, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Après, sur Plink, on travaille à deux, hein, vraiment, enfin, même plus que ça, parce que, en fait, moi, je fais surtout la partie conseil, et Pierre-Henri, mon associé, il a un studio d'enregistrement depuis 30 ans, il connaît tous les gens qui sont dans le son, les acteurs, etc., etc., et en fait, toute la partie prod, c'est plutôt lui qui va s'en occuper beaucoup plus que moi,
d'accord.
En fait. Donc, là-dessus, je suis pas du tout seul, et je travaille aussi sur un projet de blockchain.
D'accord. Donc, nouveauté, petit scoop pour moi. Incroyable.
Qui s'appelle Ariani, qui est de la blockchain dans le luxe, donc ça te concerne, en
plus.
Ah,
bah, écoute.
Où on fait de la traçabilité post-achat. Et là, pour le coup, je suis dans une team, c'est-à-dire qu'il y a une
d'accord.
équipe, il y a une équipe et on travaille tous ensemble.
Et tu travailles, enfin, je veux dire, t'as un emploi du temps cadré avec eux ou comment ça se passe?
Non, cadré non, mais ça prend pas mal de temps.
D'accord. Ouais, parce que ça m'intéresse justement, enfin, j'ai pas mal de personnes qui me disent qu'ils sont indépendants ou freelance
ouais.
qui écoutent le podcast et du coup, bon, bah, en gros, j'aimerais bien te poser quelques petites questions
vas-y.
Là-dessus, un peu sur ton organisation et,
oui.
et du coup, ce qui te plaît là-dedans. Donc, j'ai cru comprendre déjà, bah, c'est vrai, la facilité. Tu m'as parlé aussi d'un autre mot qui, moi, me plaît beaucoup, beaucoup, c'est la liberté.
Oui.
J'ai l'impression que c'est une valeur super importante pour toi.
Ouais.
Si tu peux m'en dire plus, déjà d'où ça vient, peut-être, je sais pas.
Alors, d'où ça vient, je sais pas.
On sait jamais vraiment, je crois.
Je suis pas sûr de savoir d'où ça vient. Ce qui est sûr, c'est que t'as effectivement, quand t'es indépendant, cette liberté incroyable de travailler tous les jours. Mais c'est pas faux, hein, cela dit. Mais t'as aussi la liberté d'aller voir un pote un jour de semaine, si tu le souhaites. Non, moi, je travaille 6 jours sur 7, je travaille pas tous les jours. Mais en général, je travaille pas le samedi.
Mais... Ouais, tu me disais que tu peux aller à la piscine à 11h.
Mais
si
voilà, exactement. Parfois, je vais à la piscine à 11h, je peux très bien aller au sport, je peux très bien, Moi, je flâne beaucoup. Hein, donc, j'ai un esprit assez créatif, donc j'ai besoin de beaucoup flâner. Je marche 10 km par jour. Donc, à un moment donné, il faut que je les place, ces deux heures de marche.
Ouais, c'est clair. Ouais, tu marches 10 km par jour, c'est énorme. Ouais. Bah, tu vois,
Et du coup, il faut que je les place, ces heures, quand même, tu vois, ces deux heures de marche tous les jours, à peu près. Plus ou moins, mais en moyenne, c'est ça. Ça, cette liberté-là, pour moi, elle est vachement importante. La liberté de choisir mes clients, la liberté de travailler avec des gens que j'aime, que j'apprécie, que j'estime. Et c'est vrai que la relation que j'ai avec mes clients en général, elle est hyper particulière. Tous les gens me le disent. Enfin, pas les clients en général, mais ça devient des amis, en fait, vraiment. Hein, c'est assez fou. J'ai une relation vraiment privilégiée avec les gens avec lesquels je travaille, mais peut-être aussi parce qu'on se choisit mutuellement, quoi. Il y a vraiment un truc humain. Moi, je suis extrêmement sur l'humain, donc il y a vraiment un truc humain qui se passe. Et toute cette liberté-là, pour moi, elle est essentielle. La liberté de penser aussi. La liberté, moi j'ai toujours été mon blog, quand je l'ai ouvert, il s'appelait Sortir du cadre. Et en fait, je suis toujours resté là-dessus, c'est-à-dire, et même quand j'étais salarié, je me souviens que j'allais au bureau en claquette, et ça faisait rire tout le monde, parce que, mais j'ai toujours
Dans le milieu corporate, c'était pas trop, surtout à l'époque.
Pourtant, j'étais chez Bouygues Télécom à l'époque, et tout le monde était en costume. Donc.
Ouais.
Ou même chez nous. Et moi, j'ai toujours eu cette volonté d'avoir cette liberté de penser, d'agir. De gérer mon emploi du temps, de partir en vacances quand je veux, etc., etc. Après, ça a des inconvénients hyper forts, comme le fait de travailler effectivement souvent, enfin beaucoup, comme le fait que parfois t'as pas de clients et que du coup tu dis merde, qu'est-ce que je vais gagner parce que là, pour le mois à venir, j'ai rien. Comme t'es tout seul, bah d'un coup t'as trop de trucs. Et voilà, ça a plein d'inconvénients, mais ça fait 6 ans que je fais ça et à la fin ça se passe bien.
Et justement, si tu me walk un peu le chemin de qu'est-ce que c'est que la journée type de Grégory Pouy, en plus avec toutes les diverses activités que tu as, est-ce que tu peux me dire un peu comment ça se passe? Parce que je me rends pas tellement compte, moi, ayant une vie finalement un peu métro-boulot-dodo, tu vois, de 9h à 20h. Déjà, genre, à quelle heure tu te lèves? Comment tu casses ta...
Alors moi, je suis quelqu'un de très matinal, donc je me lève très tôt.
C'est-à-dire?
Souvent avant 7h en tout cas.
D'accord. Bon, c'est bien. Il paraît que la vie appartient aux ceux qui se lèvent
tôt. Malheureusement, moi je couche pas du soir. Ça me fait la limite de l'exercice, mais je commence toujours par m'étirer. Voilà. Donc je prends du temps pour m'étirer tous les matins, soit faire du yoga, soit faire des trucs avec mon corps. J'aime bien prendre du temps pour prendre mon petit déj.
Et ça, tu vois, déjà rien que ça, je trouve ça génial parce que ça veut dire que t'as le temps le matin de faire des trucs qui sont importants pour toi.
T'as le temps, c'est-à-dire que tout le monde a le temps. Hein.
Tu prends ce temps, quoi.
Ouais, moi je le prends en tout cas. Et après je bosse en fait. Et après, c'est ça qui est cool aussi, c'est que j'ai aucune journée type, c'est-à-dire que ça peut très bien être... j'essaye de caler mes rendez-vous l'après-midi, parce que moi, comme je suis plutôt du matin, je travaille, je suis plus intelligent le matin.
D'accord.
Donc, j'essaye de caler mes rendez-vous l'après-midi. Donc, mais parfois, j'ai des journées entières, où, par exemple demain, où j'ai aucun rendez-vous. Et il y a des journées où j'en ai 5-6 dans la journée, en fait. Et j'essaye de structurer comme ça, parce que pour moi, en fait, les rendez-vous, ça te casse tellement la journée que du coup, t'as beaucoup moins de temps de bosser. Donc je préfère mettre tous mes rendez-vous, si je peux, tous mes rendez-vous dans une journée, enfin tous, en tout cas, de les cumuler, plutôt que de les éparpiller tous les jours.
Faire les travaux de fond un peu à un moment donné.
Et en même temps, t'as quand même besoin d'évader, parce qu'en fait, personne travaille 8 heures. Enfin, je veux dire, c'est un vrai gros mensonge de dire que les gens ils bossent 8 ou 10 heures dans la journée, et personne fait ça. C'est-à-dire que quand t'es au bureau, tu parles avec tes collègues, tu parles de la pluie du beau temps, tu réponds à tes mails, tu vas à des réunions, machin. En fait, personne ne bosse 8 heures dans la journée. Donc, ce qui est assez bizarre d'ailleurs quand t'es indépendant, parce que comme t'es tout seul, que t'as pas de réunion, tu te dis putain, mais je suis nul, je travaille pas. Alors qu'en fait, en réalité, pour moi, personne ne travaille. Enfin, tu peux travailler 8 heures dans la journée quand tu fais un truc où tu réfléchis pas. Mais
complètement.
Tu es débile, tu peux le faire. Mais quand tu as besoin de réfléchir, personne ne fait ça.
C'est impossible. Possible. Et alors, justement, très belle transition vers ces fameuses petites marches, ces flâneries. Donc, du coup, ça, tu arrives à caler au milieu de la journée, tu le fais à l'heure du déj, comment ça se passe?
En général, je vais quand même quelque part. Mais,
d'accord.
Mais si j'ai nulle part où aller. Ce qui arrive, hein. Par exemple, demain, j'ai nulle part où aller, mais je vais quand même aller marcher, c'est sûr.
D'accord.
Mais ça peut être aussi pour aller à un dîner le soir. Hein. Mais du coup, les gens sont surpris.
Oui, c'est ça. Tu vas à tes rendez-vous en marchant, en fait.
Mais je peux monter jusqu'à Clichy, ou à Levallois à pied, sachant que je suis dans le 15e. Je marche, je le fais, je vais à République, je vais à Bastille, je vais partout à pied.
C'est génial.
Mais j'ai une moto, hein. Si vraiment je suis pressé, je peux prendre la moto, je prends le vélo. Mais souvent, je marche.
Bon, c'est génial. Bah, ça te fait forcément un peu sortir et faire un petit sport.
Et donc, si j'ai nulle part où aller, je prends le temps de le faire. Je sais pas, je le cale.
Et tu dirais que en général, ta journée de boulot s'arrête en réalité vers quelle heure le soir ?
20h.
Vers 20h. Et tu peux avoir un dîner, un truc comme ça, parfois un peu boulot.
Ouais. D'accord. Après, oui.
Non, mais c'est vrai que du coup, finalement, c'est relativement proche de la vie de quelqu'un qui serait dans une structure, quoi. En réalité, avec plus de. Avec plus de liberté, parce que tu sors quand tu veux, tu fais ce que tu veux.
Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, je pense que c'est... Enfin, en fait, t'as moins... Par rapport au milieu corporate, on va dire. T'as pas de politique, évidemment. Mmh. Ça, c'est le gros avantage, quand même. Et je connais bien la vie corporate. Ouais. Donc, t'as pas de politique, donc ça, c'est quand même très agréable. T'as beaucoup moins de certitude, parce que tu sais pas, t'as pas de salaire, hein, donc concrètement, il y a un stress qui se... Voilà, enfin, plus ou moins, mais tu peux avoir du stress. Et c'est peut-être différent en ça que t'as pas de collègues, donc il faut avoir quand même une certaine rigueur pour travailler tout seul, en particulier quand tu travailles chez toi. C'est aussi différent parce que t'as vraiment pas de routine. Enfin, moi j'ai pas une routine où je pouvais prendre le métro pour aller au bureau. J'ai pas de routine. J'ai pas de routine en fait. Donc en ça c'est un peu différent. Mais sinon oui, enfin, je veux dire, le travail c'est le travail. Quoi. Mais sauf que moi j'adore mon boulot, donc j'ai même pas la sensation de travailler. Donc ça c'est quand même.
Donc tu travailles tout le temps.
En fait, ouais, c'est un peu le downside du truc. Hein,
ouais. Mais... Et puis surtout toi, en fait, dans ton domaine, moi, c'était une des questions que je voulais te poser, c'est que comme tu travailles sur un peu la nouveauté en permanence et sur le marketing digital notamment, j'imagine que la veille est quelque chose que tu fais énormément, les lectures, les rencontres, ça fait partie de ton boulot. On pourra parler aussi du détail, un peu d'outils éventuellement si t'as des recos, mais comment tu l'abordes en fait ce travail de veille, c'est-à-dire que tu y affectes un temps dédié par jour ou en fait non, c'est juste un travail permanent.
Alors moi je suis plutôt créatif comme je t'ai dit, donc je suis pas du tout organisé.
D'accord. Bah tant mieux, tant mieux.
Donc oui, alors idéalement effectivement, il faudrait structurer, mais je le fais pas. Donc je lis quand on m'envoie des trucs ou quand je passe sur j'ai des newsletters que je regarde, En fait, le truc à la base, quand même, c'est vraiment ça, et c'est pour ça que j'ai ouvert un blog et que je vais faire mon podcast, etc. C'est que je suis hyper curieux, en fait. Donc, je suis hyper curieux de plein de trucs. Et je pense que c'est ça que les gens viennent chercher chez moi, enfin, quand je fais du conseil ou des conférences, c'est que il y a le fait que j'ai pas trop de langue de bois, mais il y a aussi le fait que je vais mixer des sujets. Et c'est pour ça que là, mon podcast, par exemple, j'ai arrêté le marketing. Et c'est beaucoup plus sociologique parce que moi, à la fin, ce qui m'intéresse, c'est pas le marketing, c'est pas que ça m'ennuie, mais.
Bah, t'en as fait beaucoup quand même.
Oui. Ouais, voilà. Et puis bon, je trouve que c'est pas très, très intéressant, en fait. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est pas vrai, mais la socio, c'est une science, c'est une science molle, mais c'est une science qui te permet de faire du marketing. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Le marketing, c'est fait pour des gens. Donc, en fait, quand tu comprends les gens, par exemple, j'ai fait un podcast sur, le plaisir féminin, etc. Donc bon, tu peux te dire ça a rien à voir avec le marketing, mais en fait si. Enfin, je veux dire, pour toutes les marques qui s'adressent aux femmes, de comprendre comment, enfin la relation à leur corps, comment c'est en train d'évoluer, parce qu'il y a des mouvements qui sont en train de se faire, comprendre la relation au couple, comment c'est en train d'évoluer. En fait, pour les marques, c'est hyper important, et pas que pour Tinder, en fait. Enfin, vraiment, ça a des impacts qui sont hyper forts. Donc après, si t'es pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas à ces genres de choses parce qu'ils prennent pas le temps ou ils osent pas en parler, etc. Moi, je prends le temps et je trouve que ça t'apporte vraiment beaucoup de valeur. Et j'espère en apporter à mes clients en faisant ça. Mais en tout cas, ça m'éclate.
J'ai pas trop de doute. Et si on parle un petit peu justement, moi la veille, je t'avoue que c'est un truc qui me fascine et que je trouve très difficile, qu'on essaye de faire aussi chez Gémio, mais c'est pas simple. Et je voulais te demander du coup si t'avais, alors déjà un peu des trucs ou je sais pas des outils que tu utilises ou des newsletters, t'en parlais.
Alors ouais, il y a des newsletters que je lis, quelques-unes, comme IAB, la version US en tout cas, je lis tout le temps Time to Sign Off, bon, c'est pas vraiment
de la veille
professionnelle. J'ai des comptes Twitter que je suis aussi, j'ai segmenté les comptes Twitter avec une partie qui est relevant, donc où je scroll down un petit peu, bien sûr dans Twitter tu scrolles pas down, mais dans cette colonne là je peux me permettre de scroller parce qu'il y a pas grand chose. J'écoute pas mal de podcasts aussi.
C'est vrai que c'est un nouveau média qui est vraiment intéressant. J'allais te dire que tes 2 heures de marche, c'est parfait pour le podcast.
Exactement. Parfois, j'écoute de la musique. Hein. En vrai, j'écoute pas des podcasts en permanence, mais voilà. J'aime bien Cassandra Daly aussi, qui est une news par jour, une tendance par jour, pas une news, mais une tendance par jour. Enfin, il y a plein de trucs que je lis. Et puis, c'est aussi beaucoup de conversations avec des gens passionnants et qui, du coup, m'aèrent l'esprit, quoi.
Ah bah c'est sûr que c'est comme ça, je trouve qu'on apprend.
Et puis, ça bouge pas si vite.
Enfin, c'est vrai. C'est vrai. Bon, là-dessus, en fait, justement, en fait, c'est marrant que tu dis ça bouge pas si vite parce que tu es quand même dans le métier du digital. On a l'impression que ça avance en permanence. Comment tu fais pour faire la part des choses entre un effet de mode et une vraie tendance de fond? Je sais pas si tu as déjà réfléchi ou si c'est un truc que tu arrives à faire parce que c'est ultra dur.
Ouais, c'est un peu dur, mais les tendances de fond, en fait, elles sont rares. Et vraiment, on dit toujours le digital c'est un état d'esprit, mais c'est vrai que c'est un état d'esprit. Et en fait, à partir du moment où t'as l'état d'esprit, t'arrives à saisir des mouvements, par exemple, parce que tu le vois dans tes usages propres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quand t'es sur Instagram, tu regardes plutôt les stories que le feed, tu comprends que les stories ça prend de la place, que les gens ils veulent de la live TV, et tu vois ce qui se passe en Chine, et du coup tu fais le relais, et tu vois ce qu'a fait Snapchat, et du coup tu comprends le lien, et tu te dis ah ouais, en fait ce que veulent les gens, c'est pas qu'une, ils veulent de l'authenticité, ils veulent un truc donc un peu plus vrai, un peu moins beau, ils veulent de la vraie vie, ils regardent sans doute ça aux chiottes ou dans le métro quand ils ont rien à faire, mais n'empêche que c'est vachement plus important parce que le premier truc que tu fais le matin quand tu regardes Instagram, et maintenant du coup tu vas beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook par exemple, bah c'est les stories en fait. Et le feed c'est si t'as le temps, donc tout ça tu comprends dans tes usages, je crois. Et puis il y a des choses aussi, t'arrives à sentir, c'est à dire que des effets de mode, tu vois les gens, par exemple la VR, la réalité virtuelle, c'est pas que c'est un effet de mode, c'est un truc vachement important, mais les gens en ont fait un effet de mode,
c'est
donc du coup ils l'utilisent n'importe quoi, enfin ils font n'importe quoi avec,
mais surtout je trouve qu'il y a eu des, comment dire, des expectations, le mot en français, c'est des attentes qui étaient énormes, alors que finalement pour l'instant ça n'a pas délivré.
Si ça délivre, mais en fait disons que la réalité virtuelle c'est bien dans certains cas, hyper spécifique, mais dans la majorité des cas ça sert à rien en fait. Donc je pense que c'est aussi un mensonge des agences, un mensonge des gens qui la vendent, pour dire non c'est génial, c'est génial, mais pour certains trucs, c'est-à-dire quand t'as vraiment besoin de VR, par exemple, je sais pas, voir la place de la Bastille comme c'était en 1789, c'est intéressant. Voir une boutique comme c'était il y a 20 ans, je m'en fous, enfin tu vois. Et ça, en fait, le truc c'est que je pense qu'il y a beaucoup de digital washing, parce que les marques, elles ont tellement peur de pas être modernes, justement, que du coup, elles font n'importe quoi, et les agences en profitent, mais
alors que parfois, un peu de bon sens, c'est pas
mal. En fait, c'est souvent ce que je dis, quand les gens me disent, mais pourquoi on devrait vous faire? Moi, je pense que j'ai beaucoup de bon sens. Non, mais c'est vrai, c'est le truc que j'ai le plus, je crois.
Non, mais c'est vrai, là, tu vois, quand tu me dis, en fait, je pense que t'es le premier consultant marketing qui m'ait dit, en fait, ce qui compte, c'est l'usage, et c'est même quand moi-même je le fais, parce qu'en général, ils sont toujours en train de dire, non, mais les jeunes qui ont 14 ans, ils font différemment. Mais en fait, non, quoi.
C'est pas vrai. Moi, je donne des cours, je vois bien, c'est pas du tout une question d'âge, le digital. Déjà, c'est vraiment une question des esprits. C'est vrai qu'on coupe les générations en fonction de la date de naissance, mais pour moi, c'est un peu débile. C'est-à-dire que c'est une facilité d'esprit, mais en réalité, tu peux très bien être millennials ou Gen Z en ayant 40 ans, et tu peux très bien être Gen X en ayant 20 ans. Et j'en ai vu des gens qui étaient vieux dans leur tête et pourtant ils étaient jeunes. Oui, c'était pas du tout digital. Moi, j'ai vu des gamins qui me disent, mais moi, je crois pas dans le digital. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Bien sûr que c'est vrai que a priori, quand t'es né avec une tablette dans la main, t'es plus à même de le comprendre. Mais c'est pas du tout gagné. C'est pas parce que t'es jeune que t'es innovant. C'est complètement faux, ça.
Et là, actuellement, est-ce qu'il y aurait des... Alors, du coup, pas des effets de mode, mais des tendances que tu sens, que tu renifles, ou tu te dis, je sens que ça va venir?
Alors déjà, je pense que tout ce qui se passe en Chine, c'est hyper intéressant. Donc, le paiement mobile, ça va être énorme. Je pense que c'est pas qu'on va arrêter les influenceurs, mais on va être beaucoup plus sur de la vente en direct, et on va demander aux influenceurs, ils vont être rémunérés sur de la vente, et de plus en plus, je pense qu'on va avoir ça venir.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Aujourd'hui, un influenceur, il est rémunéré sur son nombre de likes et sur sa capacité à générer
de l'engagement.
Le fameux engagement avec des faux commentaires et des faux likes.
C'est vrai que c'est ça qui est dur. Tu parlais d'authenticité tout à l'heure. Le monde de l'influence, notamment sur tout ce qui est Instagram, t'as l'impression que tout est faux, qu'en fait, c'est des personnes. Enfin, il n'y a pas que, mais pour les marques, c'est difficile de faire la part des choses entre.
Il faut mettre des outils quand même.
Oui.
Tu peux utiliser des outils pour le faire. Mais moi, je crois beaucoup au retour dans la vraie vie. Je crois beaucoup aux rencontres dans la vraie vie. Du coup, c'est pas du tout digital. je crois vachement à la blockchain, même si les gens la résument en général aux crypto-monnaies et au Bitcoin. Je pense qu'ils ont pas du tout compris à quoi ça servait. Et en même temps, sincèrement, c'est une technologie qui n'a pas besoin d'être comprise par la majorité des gens. Hein. C'est-à-dire que c'est une technologie qui permet de digitaliser de la confiance, en réalité. Est-ce que moi, je sais comment fonctionne le HTTPS ou le FTP/IP? J'en sais rien, en fait. Je m'en sers et je trouve que c'est génial. J'ai pas besoin de savoir comment ça marche. Je pense que pour la majorité des gens, ils n'ont pas besoin de comprendre la blockchain. Mais par contre, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses parce que ça va te permettre... par exemple, j'étais avec un des patrons de Carrefour là, à déjeuner. Il me disait, on était les premiers à faire dans la grande surface. Et aujourd'hui, ton poulet, en supermarché, tu peux savoir qui est l'éleveur avec sa photo, savoir comment il a été élevé, quand il est né, quand il a été tué, toute sa vie. Et je trouve que c'est vachement, enfin, et ça va changer. En fait, on s'en rend pas compte aujourd'hui parce que c'est trop lointain et c'est sans doute un peu abstrait. Mais la digitalisation de la confiance et de pouvoir vérifier un certain nombre de choses, en particulier dans une période où on est quand même pas très sûr de pas grand chose, pas sûr de grand chose.
Bah, notamment au niveau de l'alimentation, je sais que tu as fait un podcast en plus super intéressant là-dessus.
Par exemple, l'alimentation, mais en fait, ça peut être n'importe quoi. Les diplômes, quand tu recrutes, j'étais dans une marque de luxe il n'y a pas longtemps, ils me disaient qu'il y a 30% des CV qu'ils reçoivent qui sont faux.
C'est
vrai. Il y a des mensonges dedans, bien sûr.
Quand on y pense, c'est absurde, évidemment. Les gens, pourquoi est-ce qu'ils diraient la vérité? Personne ne va les vérifier.
Tu peux vérifier, mais tu vois, par exemple, tu quittes une boîte. En fait, t'es au chômage, mais tu vas allonger ton expérience. Tu sais pas quand est-ce que la personne elle est sortie. Voire tu sais même pas si elle est vraiment allée dans la boîte. Encore pire aux US, les diplômes, plein de choses. Donc ça, c'est un exemple, mais moi, je crois pas trop à la blockchain qui va remplacer des tiers de confiance existants. Ça va sans doute arriver, mais tu vois, on pourra imaginer les notaires ou quoi. Mais je pense que comme ils sont déjà existants, du coup, il y a moins besoin, mais il y a plein d'endroits où il y a manque de confiance. Et pour l'instant, il n'y a rien. Donc, ça, j'y crois vachement. Après, moi, je pense que la VR, ça va être remis à sa place. Je crois beaucoup plus dans la réalité augmentée. Je trouve que ça a plus de portée, mais bon, ça, c'est mon avis. après, c'est le mobile. Les réseaux sociaux, je crois que ça va continuer à exister. On voit bien qu'il y a des tendances, tu vois, où on quitte un petit peu, mais en même temps, ils utilisent tellement de neurosciences que c'est hyper... t'es esclave de ce truc, quoi. Vraiment, c'est hallucinant. Quand tu le sais, parce que moi, j'ai lu sur le sujet, comme plein de gens, et que tu comprends comment ça marche, en fait, c'est tellement de neurosciences que ça génère des trucs dans ton cerveau qui fait que tu peux pas t'en passer. Quoi.
Oui, il y a une addiction.
Donc peut-être que le slow web, comme j'ai fait un épisode là-dessus avec Tarek Krim aussi, mais peut-être que le slow web, ça va prendre un peu forme.
Après, j'ai juste peur que ça reste quand même sur une niche un peu CSP+, et tu vois, particulière quand même.
Oui, de toute façon, c'est une certitude. Il y a une... Mais après, c'est des tendances, donc... Ça va se généraliser, mais ça va prendre beaucoup plus de temps pour généraliser. Oui, alors ça c'est sûr, t'as raison. Évidemment, tu peux pas résumer le digital à 3-4 mecs qui sont dans le digital, quoi. Mais quand même, tu sens que les gens s'intéressent à leur data.
Ça finit quand même toujours par un peu.
Perler
un peu.
Exactement,
quoi.
Exactement.
Et une question un peu que je me posais, est-ce qu'il y a des fois où vraiment tu t'es complètement planté justement un peu sur une prédiction? Est-ce que t'as souvenir d'un truc?
Carrément. Un truc en particulier sur Facebook où en fait j'ai jamais été un très grand ami de Facebook. Parce que à la base, quand ils ont lancé ces pages de fans, je trouvais ça génial comme stratégie marketing. Mais je me suis dit, putain, les mecs, ils se foutent de la gueule du monde quand même. Et en fait, j'étais convaincu que les gens allaient s'en rendre compte.
Donc, ça allait jamais prendre.
Et que du coup, Facebook n'allait pas durer parce que je me suis dit, non, mais c'est pas possible quand même. Les gens vont s'en rendre compte quand même qu'on les prend pour des cons. Et en fait, non, je me suis totalement trompé. Ça a très bien marché.
Ça continue d'ailleurs à très bien marcher.
Et puis les rachats de WhatsApp et Instagram, c'était tellement intelligent.
C'est sûr. Non, c'est sûr que...
Donc là, par exemple, tu vois, typiquement, je me suis dit, beaucoup beaucoup planté
mais tu t'es adapté derrière, donc il y a pas de problème. Je voulais parler justement un petit peu de la tendance podcast. Je sais que ça t'intéresse et moi aussi évidemment. Moi ma première question, je sais pas si tu y réfléchis, c'est pourquoi est-ce qu'il y a depuis quelques mois, depuis 9 mois peut-être, 1 an, enfin depuis en gros toi aussi que t'as lancé ton podcast, une ébullition quand même, je trouve, démente en France sur ce média qui existe depuis en réalité des années.
Alors ça, j'ai la réponse.
Ça m'intéresse.
Ouais. Ça, j'ai la réponse. La réponse que j'ai pas, c'est pourquoi c'est hyper trusté par les femmes. C'est hyper intéressant. Ça, j'ai pas vraiment la réponse. Mais
ce qui est pas le cas en plus dans d'autres pays.
Non. C'est vraiment spécifique à la France et je trouve ça génial. Mais j'ai pas bien compris pourquoi les femmes ont autant pris le podcast beaucoup plus que les hommes. Je sais, en France, je sais pas pourquoi. Mais bon, pour répondre à ta question, c'est assez simple. En fait, on est dans une période où il y a beaucoup trop de contenu par rapport à la capacité des gens de le consommer. La problématique du contenu texte et vidéo, c'est que ça te demande 100% d'attention et que 100% d'attention, t'en as pas beaucoup. Donc ce que tu fais, c'est que de plus en plus tu ouvres une page web, tu dis ah je lirai plus tard, mais en fait tu lis pas plus tard, tu regardes une vidéo, tu commences et en fait tu snack du contenu. Donc et t'as quand même besoin, envie d'avoir du contenu de fond, sauf que tu ne prends pas le temps de le consommer. Et en fait le podcast c'est une sorte de respiration pour tout le monde. Parce que t'as envie d'avoir des émotions, t'as envie d'apprendre, t'as envie de rire, t'as envie, peu importe ce que t'as envie, mais avec une attention partagée. Et en fait, le podcast, ça touche une attention partagée puisque tu peux faire autre chose en même temps. Tu peux marcher, tu peux faire du sport, tu peux faire la cuisine, tu peux faire ce que tu veux. Et du coup, ça arrive un moment où les gens sont complètement gavés de contenu. Sur leur temps à 100% disponible et qu'ils n'ont plus de place. Et du coup, pour les consommateurs, il y a une vraie respiration avec des contenus longs, intelligents, en tout cas, qui répondent à un besoin.
Essaye.
Ça peut être divertissant, ça peut être n'importe quoi. Non, mais ce n'est pas forcément intelligent, ça peut être divertissant, ça peut être ce que tu veux. Et du coup, qui correspond à un besoin. Tu vois, quand tu es dans le métro, parfois, tu as envie d'écouter de la musique et parfois, tu as envie d'apprendre un truc et tu te dis, en fait, et là, on en arrive à la tendance dont on parlait avant de commencer le podcast, qui est sur l'optimisation de son temps.
Oui.
T'optimises, en fait.
En écoutant du podcast.
Bah ouais.
Mais du coup, toi qui m'as dit que tu n'aimais pas l'optimisation, tu devrais ne pas aimer les podcasts.
Si, non, mais, parce qu'en fait, j'aime pas l'optimisation parce que j'aime pas l'optimisation à outrance. C'est-à-dire que moi, je suis dans la tendance, comme tout le monde est dans la tendance de l'optimisation à outrance en disant, ah, mais moi, je suis tellement occupé. Mais, ce qui pour moi est un peu, enfin, tu vois, c'est pas super d'être super
bien
occupé.
Bien sûr, non, bien sûr.
Mais,
c'est pour ça que je voulais te poser plein de questions aussi sur ta vie d'indépendant. C'est qu'en fait, du coup, t'es maître de ton propre destin.
Et moi, je facture assez cher, donc du coup, je prends mon temps.
Mais t'as raison. Mais t'as raison. Et puis surtout, t'as raison, en fait, de le faire valoir, parce que c'est ton temps, on en a pas tant que ça.
En fait, on peut pas être efficace. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, pour ce qu'on me demande, moi, je peux pas le faire 8 heures par jour tous les jours. C'est impossible. C'est inimaginable. Donc, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de proscratiner à mort. Donc, voilà.
Et cette tendance, si on revient dessus, parce que je trouve ça ultra intéressant de comme tu dis, l'optimisation à outrance, c'est quelque chose donc que t'as complètement vu quand t'étais à New York, parce que t'as travaillé à New York pendant un an et demi. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de 2 ans et demi?
Ouais. Excuse-moi. Bon,
est-ce que tu peux me parler un peu d'exemple de ce que t'aurais vu? Parce que je pense qu'en France, on se rend pas tellement compte en fait de ce que ça peut signifier.
En fait, le truc de l'optimisation à outrance, tu le trouves à tous les niveaux de la société, c'est-à-dire dans tes relations professionnelles, dans tes relations personnelles. Alors, ce qui est génial, c'est que tu peux rencontrer n'importe qui très facilement, mais t'as intérêt à avoir quelque chose à raconter. Donc voilà, mais t'as une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure pour les personnes te donnent ça. Les réunions durent une demi-heure d'ailleurs, pas une heure comme en France ou une heure et demie, parce qu'en France, ce qu'on fait, c'est qu'on te raconte la ville, beau temps, ah ouais, t'as fait quoi ce week-end, et puis après, au bout d'un moment, tu parles de boulot. Aux États-Unis, c'est que t'as une demi-heure, donc t'as intérêt à parler de boulot tout de suite, parce que sinon, parce que ça s'arrête. Et d'ailleurs, les gens sont à l'heure à New York.
c'est une petite différence. D'ailleurs, je suis arrivé en retard.
Tu n'arrives pas en retard à New York parce que les gens n'ont pas le temps. Et un des trucs qui est très, moi, que j'ai détesté à New York, c'est qu'il n'y a pas de quality time. Ce que j'appelle du quality time, c'est de poser avec un pote et de rester 2 heures à refaire le monde ou même à boire un verre et avoir une vraie discussion. Et ben ça, c'est hyper difficile parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, et ça, c'est vicieux, c'est que tout le monde a 2 ou 3 soirées dans la même soirée. Et du coup, si tu le fais pas, tu te fais planter, donc tu te retrouves un peu le bec dans l'eau, donc tu restes chez toi. Donc tu le fais aussi. Sauf que tu arrives dans une situation où c'est une sorte de course folle à celui qui a le plus de soirées chaque soir. Et tu n'arrives plus à donner de temps aux gens, enfin un vrai temps qualitatif aux gens. Et moi, je me suis retrouvé, par exemple, un truc débile, une copine américaine qui me prêtait son appart, et je lui dis ouais, j'espère qu'on envoie le temps. Enfin non, mais carrément et tout, je te donne toute ma matinée. Elle m'envoie un truc le matin. Ouais, alors en fait, si on pouvait juste déjeuner, parce qu'en fait j'ai des rendez-vous. Ouais, alors en fait, on va se voir un quart d'heure parce que je te donne mes clés et parce qu'en fait j'ai eu un déjeuner machin. Et en fait, on a mangé sur le pouce un sandwich et voilà quoi. Et en fait, c'est c'est un exemple, mais qui est hyper typique de New York. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, à New York, tu cours en permanence. Et c'est pareil pour les relations amoureuses, quand on parle d'optimisation. Tout le monde dit qu'il veut, enfin, on dit toujours, il y a trois fois plus de femmes que d'hommes, etc. Ce qui est vrai. Mais quand tu veux te poser, par exemple, avec quelqu'un, c'est quasiment impossible parce que les filles, elles sont là en mode, ouais, mais peut-être que je peux trouver mieux. Mmh. Et du coup, elles n'arrêtent jamais de chercher, quoi.
Ce côté, tu sais, le coût d'opportunité permanent, exactement, l'absence de choix aussi, parce que je suis désolée, mais il y a un moment où, en fait, quand tu veux faire une vie, avoir une carrière ou avec quelqu'un, etc., il faut quand même prendre une décision.
Exactement.
Et je trouve que c'est un peu une absence de décision, franchement.
Bah, en fait, la course en avant est effectivement un peu une absence de décision. Et du coup, moi, je vois des gens qui se rendent malheureux à faire ça. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils se disent, ouais, mais... Et en particulier, je pense que les applis de dating ont vraiment rendu les gens seuls et malheureux. Mais, et puis, plus la ville est grande, plus tu te sens seul. Hein, ça a été prouvé. Donc New York, tu te sens vachement seul. Hein, au final, t'as beaucoup de solitude à New York. Mais sur le dating, oui, les gens, ils sont toujours là à se dire, mais peut-être que je peux trouver. C'est pas qu'il n'y a pas mieux. C'est soit tu ressens un truc, soit tu ressens rien. Mais mieux, c'est un concept, quoi. Enfin.
Et toi, si ça te gêne cette question, tu me dis, hein, mais, en fait, quand même, tu n'étais pas tellement dans le cadre quand tu étais à New York en tant que Français, ne travaillant pas dans un grand groupe, mais étant consultant indépendant. Ouais, ouais. Et en fait, là-bas, il y a quand même un peu une surenchère permanente. Je trouve beaucoup de comparaisons. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Alors, et ce souci d'optimisation, est-ce que c'était dur? Est-ce qu'au contraire, c'était ton moyen de te différencier?
En fait, ce qui se passe à New York, un peu comme à Paris d'ailleurs, c'est qu'on on te juge par l'endroit où tu habites. C'est-à-dire que l'une des premières questions qu'on te pose, c'est l'endroit où tu habites.
D'accord.
Et en fonction de ça, on arrive à savoir si c'était cool, pas cool, et ton niveau de vie.
D'accord.
Parce que évidemment, si tu habites dans Manhattan, dans West Village,
c'est pas pareil que...
À moins que t'aies un KGB, on sait que tu payes au moins 2500-3000 balles ton appartement, quoi. C'est impossible d'avoir en dessous, ça. Voilà. À moins que tu y sois depuis 25 ans. On te juge comme ça. Et après, en fait, très rapidement, on se demande qu'est-ce que tu peux m'apporter. Si tu peux rien apporter, effectivement, t'es vite sorti. Moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai un pote qui bosse qui dirige le bureau de JR à New York et qui m'a présenté des gens géniaux. J'ai eu un réseau hyper fort, hyper vite d'un mix d'Américains, de Français, mais plutôt dans le monde artistique, plus des gens que je connaissais via le boulot, etc. Et en fait, ça s'est assez bien passé de ce côté-là.
C'est rare en plus, hein, bravo,
ouais,
parce que franchement,
non, c'était cool.
juste pour terminer sur les podcasts, je voulais te demander du coup, puisque tu marches beaucoup, quels sont les podcasts que tu écoutes régulièrement, que ce soit français, US, ouais, anglais peut-être?
De manière quasi systématique, Thinkerview.
D'accord.
Qui est français. Ça c'est sûr, j'écoute La Poudre de temps en temps parce que je trouve qu'elle a des sujets qui sont vachement intéressants. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute Génération Do It Yourself de temps en temps, j'écoute Transfert de temps en temps. J'ai beaucoup écouté Transfert à un moment donné d'ailleurs, et puis après j'ai ralenti, mais j'ai écouté certaines séries comme Les Braqueurs que je trouvais géniales. J'ai vachement
donc assez écouté... hétéroclite, hein, quand même, enfin dans plein de domaines différents, quoi.
Ouais. J'ai vachement écouté Hurry Slowly, qui est un truc sur donc c'est des pieds d'aller lentement, hein,
d'accord,
donc qui est vachement de neurosciences justement.
D'accord.
Et l'évolution de la société, que je trouvais vachement bien. Qu'est-ce que j'écoute après? Ouais, j'ai un mix de trucs.
C'est déjà pas mal.
Ouais, enfin bon, il y en a plusieurs, mais ouais, j'écoute pas mal de choses. Thinkerview, je trouve ça génial parce qu'en fait, même si c'est des libertariens et qu'ils sont vachement sur la fin de la planète, etc., la fin de la civilisation plutôt, ils reçoivent des gens quand même hyper brillants et les discussions sont hyper intéressantes.
J'ai jamais écouté, donc je pense que je vais, tu vois, en repartant tout à l'heure,
Thinkerview, par contre, ça peut durer 1h30, 2h. Hein,
oui, c'est parfait pour la course à pied. Voilà. Greg, je voulais parler quand même un peu plus, pas que de tendance et tout ça, mais aussi parler de toi et de ton parcours, si ça te va, et un peu d'où tu viens. Alors, il me semble avoir lu ou entendu que tu venais d'un milieu plutôt humble, pas du tout tech, en tout cas, pas du tout start-up, pas du tout entrepreneuriat, tout ça.
Non.
Et du coup, je veux bien que tu me parles, ça te dérange pas un petit peu de ton enfance? Et puis, déjà, peut-être par commencer par me dire aussi, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit? Du coup, tu savais que tu voulais être indépendant?
Non. Quand j'étais petit, je pense que je voulais être pilote de chasse.
Ah, c'est marrant.
Ouais.
J'ai interviewé un pilote de chasse sur le podcast,
ouais,
c'était génial.
Je voulais être pilote de chasse.
C'était un peu grand, peut-être.
Alors, ouais, enfin, quand j'avais 10 ans, j'étais pas spécialement grand. Mais non, j'étais recalé. Je pense que mes parents avaient fait la démarche.
C'est marrant.
Et je sais pas, donc pour une école militaire, je sais pas pourquoi. Enfin, moi, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, j'étais recalé. Mais mon enfance, oui, c'est vrai que c'est une enfance plutôt humble. Moi, j'ai vécu, enfin, je viens de la cité. Donc, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Le fait que je sois métisse. Et quand t'es différent, et que t'es plutôt d'une famille modeste, disons que les enfants, bon, je pense que tout le monde a souffert des moqueries des enfants, mais moi peut-être un peu plus. Et puis on a surtout les profs ont beaucoup essayé de me mettre dans des voies de garage, comme pareil, comme dans ma famille personne n'a fait d'études, que mon frère a fait un CAP, et que quand tu vis dans ces quartiers-là, on peut facilement te mettre dans une boîte. Tiens, tu vas aller en BEP ou en CAP. Oui. On a essayé de me le faire. Bon, ça a pas marché, mais les profs ont été assez durs avec moi, pour le coup.
Parce que toi, tu voulais pas, en fait, tu sentais que c'était pas fait pour toi, ou qu'est-ce qui a fait que ça a pas marché?
Je sais pas, j'étais bon élève jusqu'en CM2. Et après le CM2, mais j'ai vachement moins travaillé. Et le skate m'a permis, parce qu'en fait, à travers mes potes, parce qu'en fait, je pense que quand tu vis dans des quartiers comme ça, tu peux tomber mal ou tomber bien, en fait, et ça dépend beaucoup de ton entourage, de ton éducation aussi, bien sûr, hein, ma mère, elle avait arrêté de travailler pour s'occuper de mon frère et moi, donc ça compte énormément, évidemment, mais aussi le fait que j'ai fait du skate avec mes potes, je faisais du skate, quoi. J'allais pas voler, j'allais voler toutes les semaines, non, c'est vrai, mais j'ai beaucoup volé, j'ai beaucoup essayé des trains, j'ai fait beaucoup de trucs comme ça, j'ai pas mal tourné, quoi. J'ai pas mal de potes.
Il y a eu un moment où tu as eu peur, ou ta famille a eu peur que tu tournes mal?
Non,
jamais.
Non, parce que je suis un gentil.
Non, mais comme tu dis, je pense qu'il y a des gentils, tu vois, qui peuvent
facilement mal tourner. Enfin, tu vois, déjà, j'allais voler toutes les semaines. Hein. Enfin, je veux dire, c'est comme ça classique.
Quand on y pense, quand même, c'est fou, quoi.
J'allais voler tout le temps, mais par ennui. Hein. Enfin,
bien sûr.
Mais bon.
et qu'est-ce qui a fait comment s'est passé un peu, du coup, la transition
s'est faite en première. En fait, j'avais une copine, Caroline, qui m'a laissé entrevoir. Déjà, j'étais bon. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'étais bon à l'école d'un coup. Je sais pas, je trouvais ça hyper facile. J'avais des grosses facilités, et du coup, d'un coup, c'était. Alors que j'ai failli redoubler ma seconde, mais en première, il y a mon prof de maths de l'époque qui m'a vachement aidé, qui m'a donné confiance, et une copine qui m'a appris ce que c'était qu'une prépa. Moi, je savais même pas. Enfin, je veux dire, c'était loin de moi tout ça. Et en fait, elle vient de la cité aussi, mais avec une différence, c'est que son père était vachement cultivé. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est possible, quoi.
Ça change tout.
Et en fait, voilà. Et en fait, du coup, celle qui m'a dit, fais une prépa, machin truc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et comme j'avais des facilités à l'école, et même si mes profs étaient pas toujours très cool, à part ce prof de maths et le prof d'éco aussi qui était bien, du coup, j'ai fait une prépa. Et voilà, c'est parti comme ça. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça a tout changé, quoi. Vraiment. Mais c'est vrai que, tu peux vraiment, à travers le travail, t'émanciper. Mais il faut avoir de la je sais pas si c'est de la chance, mais il y a un moment donné, il faut qu'il y ait un truc qui se passe, quoi. Mais c'est vrai que tu peux très mal je sais pas, ça a pu m'arriver vraiment. Mais
justement, en fait, je pense pas que j'en sais rien, on se connaît pas si bien, mais j'ai l'impression que ça aurait pas pu t'arriver. Mais tu penses que c'est parce que t'as toujours eu un peu une volonté, une ambition d'être différent, de sortir de là, de pas rester là.
Sûr, mais je pense que c'est un truc que partagent beaucoup de gens métis, de vouloir être différent. C'est comme t'as des petits problèmes de racines. T'as une volonté de te faire remarquer, je crois.
Parce que toi, t'as une maman, enfin.
Ma mère est martiniquaise.
D'accord.
Martiniquaise indienne, et mon père est métropolitain. Ouais. Et je pense que t'as une volonté de sortir du lot d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être avec une très belle voiture, comme ça peut être à travers le travail, ou peu importe comment tu le fais. Donc je pense que ça, c'est vrai chez moi, et c'est un vrai problème, hein, d'ailleurs, mais
ça te réussit pas si mal pour l'instant.
Ouais, mais ça dépend, mais c'est un autre sujet. Donc oui, ça oui. Et alors, du coup, j'ai perdu ta question, pardon.
Ma question, c'était, est-ce que tu penses que tu avais une ambition, particulière, ou une volonté de sortir du lot?
Je pense que par rapport à ma famille, j'avais l'ambition de réussir, mais ça m'est venu vraiment, je pense que ça s'est passé en première. Avant, j'étais dans le lot, quoi. Vraiment, moi, j'ai pleuré pour aller à l'école. Hein, donc, je voulais vraiment aller à l'école quand j'étais petit. Et toute la, tout le collège et ma seconde, j'ai vraiment été un cancre. Enfin, un cancre. Bon. J'avais 10 de moyenne, quoi, mais j'ai redoublé ma quatrième, etc. Enfin, j'étais pas très fort. J'essayais de me faire accepter dans les groupes, quoi. Enfin, comme tout le monde quand t'es ado. Et en première, il y a vraiment eu un déclic. Et à ce moment-là, j'étais dans les premiers de la classe et je sais pas très bien. Je pense que c'est lié à ce prof de maths et à Caroline, c'est sûr. Et après, au fait que j'avais effectivement un certain nombre de facilités, c'était pas très compliqué. J'avais compris un truc qui s'était si t'écoutes à l'école, en fait, oui, bah, c'est vachement plus simple.
Bah ça, c'est sûr, ça fait une petite différence. Ensuite, t'as pas besoin de tout réapprendre tout seul chez toi.
Après, c'est la culture. Après, c'est ton caractère. Moi, je.
J'allais te demander, du coup, tu fais ta prépa et après la prépa, tu t'intéresses au monde du web assez tôt. D'après ce que je comprends, pas du tout.
Non.
Qu'est-ce que tu as fait juste après
ta
prépa ?
Alors, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, donc je fais ma prépa, je rentre en école de commerce, et il y avait Manu Vivier, on était à l'école ensemble. Donc il a créé le Hub Institute maintenant, qui était à fond techno, je comprenais rien, ça m'intéressait pas. J'avais une boîte caramel comme tout le monde à l'époque, voilà. Mmh. Et en fait, ça s'appelait, je me souviens même plus comment on utilisait un mot technique, je me souviens plus du nom. Bref. Et, je suis rentré, au marketing, j'ai essayé de rentrer chez L'Oréal, ça n'a pas marché. J'ai essayé de rentrer au BCG, ça n'a pas marché, ils voulaient pas de moi. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai fait un stage, j'ai fait une année césure. Et j'ai fait 6 mois chez Cara, 6 mois chez Nous à l'époque. À la fin de mon stage, j'ai eu vachement de chance parce que j'ai été embauché. J'avais pas fait ma troisième année que j'étais déjà embauché, en fait. Et je dis que j'ai eu de la chance parce qu'en fait, c'est l'année où il y a eu le 11 septembre. Et les gens qui ont fait un stage de troisième année, en fait, ils se sont retrouvés à chercher du boulot en septembre. Mmh. Et autant dire qu'avec le 11 septembre, ils ont un peu galéré, quoi. Ouais. Et moi, j'avais été embauché depuis le mois de février, enfin, ou janvier, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé mon stage. À l'époque, c'était il y a longtemps. Et là, j'étais au marketing et c'était bien. Ensuite, il y a eu un plan de départ volontaire, donc je suis parti. Je suis allé dans les produits capillaires professionnels.
D'accord.
Pendant 2 ans, je me suis fait virer.
Ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille, quoi.
Non. Après, je suis allé chez Bouygues Télécom pendant 1 an. Et là, quand j'ai été viré, je me suis retrouvé au chômage et Manu, Vivier, donc, m'a dit, non, mais ouvre un blog, parce que je cherchais du boulot, j'étais désespéré. Et ouvre un blog. Et donc, évidemment, je me disais, mais de quoi je vais parler? Enfin, tu vois, j'ai aucune pertinence. Mais en même temps, comme j'étais curieux et que je me posais plein de questions et que mes potes, ça les intéressait pas du tout, je me suis dit, je vais poser ces genres de questions sur mon blog. Et donc, j'ai créé ce blog-là. Et là, j'ai commencé à mettre les mains dans le digital, mais c'était quand même 5 ans après que j'ai commencé à travailler. Je suis allé chez Bouygues et là, pour le coup, il y a une sorte de rupture de culture entre Bouygues Télécom et moi. Et je m'entends très bien avec mes boss. Hein. Et d'ailleurs, je bossais avec Jessica Delpirou qui maintenant dirige Made en France. Avec Émilie Bourguignon Vasquez maintenant qui a eu un gros poste au digital chez Accor. Enfin, donc il y avait des gens brillants chez nous aussi. J'ai rencontré plein de gens brillants. Mais c'est vrai que chez Bouygues, je suis parti au bout d'un an parce qu'en fait, on se comprenait pas très bien. C'est le souvenir que j'ai, mais passer 2 heures de réunion pour savoir qui allait emmener les documents juridiques entre l'équipe technique, le marketing et la com, moi ça me faisait chier en fait. Je trouvais ça inefficace au possible et du coup c'était pas trop dans ma culture et c'est pour ça que je suis parti. Et du coup je suis parti chez Vangsen, etc. Et là je suis vraiment en train de digital.
Donc il y a une boîte de marketing digital.
Ouais, une agence.
Et donc suite à ça, tu décides un jour de tout quitter et de devenir ton propre chef, une fois de plus. Et là, j'aimerais juste que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe. Enfin, est-ce que c'était un projet qui était maturé depuis longtemps? Est-ce que ça s'est fait hyper vite? Comment ça s'est passé?
Comment ça s'est passé? Il y a plusieurs choses qui se sont passées. D'abord, il y a plein de gens autour de moi qui me disaient, non, mais vas-y, lance-toi en indépendant, etc. Et moi, je ne faisais pas. Évidemment, j'avais un peu la frousse.
Parce qu'en plus, à l'époque, il y en avait très peu.
C'est 2011. Donc, j'avais vraiment la frousse de le faire. Et en même temps, quand j'étais chez Neuron, maintenant Sapiens Razorfish, j'avais vraiment des clients qui venaient à moi. Donc, ils voulaient bosser avec moi parce qu'ils avaient lu mon blog.
À cause du blog, j'allais te dire.
Ouais, parce qu'ils avaient entendu des conférences, etc. Mon blog, à l'époque, il était assez connu. Et du coup, ça m'a mis en confiance. Et puis, j'ai eu des longues discussions avec Antoine Paps, le patron de Neuron, où je disais, mais quand même, j'amène des clients, etc., et je voulais plus d'argent. Et je disais, mais non, pas du tout, c'est pas possible, tu peux pas être payé plus qu'un directeur associé. Et moi, je me suis dit, bah si, machin. Donc bref, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et en fait, finalement, je l'ai fait dans des conditions... Enfin, la France te permet ça quand même, c'est magique. Enfin, t'as une rupture conventionnelle, c'est-à-dire que tu touches le chômage.
Oui, il n'y a pas de risque, c'est
et
sûr.
Et en fait, tu te rends compte que tu n'as pas de risque.
Il y a très peu d'entrepreneurs qui se lancent avec zéro filet.
En fait, c'est génial ce truc de rupture conventionnelle. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu te lances, tu as le chômage. Donc franchement, tu touches 70% de ton salaire, mais franchement, ça va. Tu vis moins bien, mais tu n'es pas à la rue non plus. Et du coup, j'ai commencé comme ça et je pense que ça s'était mal passé, j'aurais arrêté. Mais sauf que ça s'est bien passé. Mm-hmm. J'ai tout de suite trouvé des clients où les clients m'ont trouvé. Je n'étais pas très bon commercial. Moi,
et tu faisais la même chose en fait quasiment en tant qu'indépendant. Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer là aussi, ça m'intéresse vachement, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Bon, alors, il y a la partie prospection où la personne vient te chercher, que tu fais peut-être pas beaucoup. Non. D'accord.
Je suis hyper mauvais à me vendre.
Bon, écoute, t'as de la chance de pas en avoir besoin. Enfin, de la chance, tu l'as mérité. Mais qu'est-ce qui se passe en fait après? C'est quoi ce que tu vends exactement pour que je
comprenne? Ce que je fais, c'est... Alors, à l'époque, je me souviens pas très bien, mais j'ai fait beaucoup de formations. Mm. Beaucoup plus de formations que de conseils.
D'accord.
En particulier chez L'Oréal, j'en ai fait énormément.
Par exemple, des formations...
Formations au comité de direction, formations aux équipes marketing.
Sur le digital.
Le digital, le marketing sociaux. D'influence, l'impact du digital dans le retail. Mm. J'ai fait beaucoup d'interventions comme ça. Et du conseil, beaucoup moins à l'époque, et puis maintenant beaucoup plus, où je faisais des stratégies pour des marques. Alors, soit... pour des campagnes, je n'avais pas trop fait pour des campagnes, mais c'était plutôt des stratégies de marque.
D'accord.
C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de marques qui me disaient, aujourd'hui, on fait plein de trucs, mais on ne sait pas exactement dans quel sens on va. Alors, bien sûr, on est présent partout parce qu'il faut l'être, mais en fait, c'est pas structuré. Mmh. Et c'est quoi, on arrive à un point où il faut sa structure, en fait. Donc ça, je l'ai fait beaucoup, et aujourd'hui, je le fais encore, soit pour des grandes marques, soit pour des petites. J'ai aussi beaucoup de coaching, j'ai rencontré des patrons de boîtes. Parce qu'en fait, quand t'es patron d'une boîte, le problème que t'as, c'est que t'as compris que le digital c'est hyper important. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas des chèvres. Hein, ils ont tous très bien compris. Simplement, il faut avoir des convictions pour prendre des décisions. Et en fait, tes convictions, parce que tu peux avoir des chiffres, etc., mais en vrai, ça fonctionne avec des convictions. Mm. Et les convictions, il faut te les construire. Et en fait, pour les construire, il faut lire, il faut parler, etc. Et en fait, tu peux faire confiance à ton agence, mais c'est compliqué. Tu peux faire confiance à tes salariés, mais c'est compliqué. Quand t'es en comité de direction ou tu vas pas demander à tes collègues parce qu'en fait c'est un peu la honte de montrer que tu sais pas, donc tu vois, il y a quand même des jeux de pouvoir et de politique. Donc en fait, et aux États-Unis ça se fait beaucoup, tout le monde a des coachs, je veux dire, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ils en ont 15 quoi. Enfin, en France c'est pas trop la culture, t'es censé savoir.
C'est vrai qu'en France, il y a un côté, t'es censé un peu avoir la vérité révélée,
mais
savoir exactement ce qu'il faut
débile,
faire.
Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les patrons, j'aide un certain nombre de personnes à avoir des convictions pour qu'ils puissent. Moi, j'avais eu cette discussion avec le patron, enfin, c'était marrant. J'avais vu le PDG de Colgate, donc qui est un Français, à New York, et qui me dit, non mais c'est trop marrant. Il fait comment vous pouvez nous aider à révolutionner Colgate Palmolive. Et moi je lui dis je vous arrête tout de suite, moi je peux pas. C'est-à-dire qu'en fait vous êtes beaucoup plus brillant que moi pour le faire, mais simplement moi ce que je peux faire c'est vous partager des convictions, vous partager ce que j'ai compris du digital, ce que j'ai compris de la manière dont le monde avait changé, comment cette révolution industrielle avait fait bouger le monde. Vous partagez mes convictions et vous allez transformer le groupe. C'est pas moi qui vais le faire. Enfin je veux dire c'est du bullshit quoi.
Ouais.
Je crois pas du tout au consultant qui est capable de révolutionner ta boîte, c'est de la merde.
Non, c'est sûr. Il faut que ça soit ce qu'il te propose. Si c'est pas accepté en interne, c'est d'ailleurs souvent le problème.
Ça. Et puis surtout, les mecs sont brillants. Enfin, je veux dire, ils ont juste besoin d'avoir des convictions. Donc ça, je les aide à faire ça.
Top, hyper intéressant. Vraiment hyper intéressant. Et donc aujourd'hui, c'est le conseil comme ça et le coaching sont parmi tes grandes, tes activités principales.
Ouais, c'est partie de mes activités. J'adore faire ça en plus.
Ça se voit. Ça se voit. Je voulais, pour terminer, te poser quelques petites questions un peu plus personnelles, si ça te va. Mais je te rassure, ça va pas être non plus des trucs de malade mental. Je voulais te poser une question qui souvent m'intéresse et j'ai pas du tout trouvé ça sur toi. C'est surtout que t'as quand même eu vraiment un énorme succès très tôt quand même dans ton blog, j'ai l'impression, et ça t'a porté très
facile,
très loin.
Il y avait très peu de blogs à la base.
Oui, d'accord. Alors ça, c'est ce que les gens disent tout le temps. Mais bon, d'ailleurs, je fais un petit aparté. Je te poserai la question après. C'est quand même pas si vrai. Je pense que c'était facile et j'imagine que t'as dû être différent d'une certaine manière de quelqu'un d'autre. Et tu vois, t'as dû faire les choses mieux ou je sais pas d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que c'est le caractère de la personne qui fait la différence. La manière dont tu réponds aux commentaires. Bon, évidemment, c'est écrit des trucs débiles avec plein de fautes d'orthographe, ça marche pas, mais c'est surtout le caractère, la manière dont tu réponds aux commentaires, le fait que tu répondes aux commentaires. Et aussi, en fait, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'on se connaissait tous. Donc, on se parlait, on se faisait des apéros, machin truc. Et en fait, la relation que t'as avec les autres influenceurs, et en fait, on se renvoyait la balle, etc., fait que ça a beaucoup changé. Mais si, c'était vachement plus facile il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Enfin,
bon,
franchement.
C'est très humble. Ma question était, du coup, est-ce que tu as connu une grande difficulté, que ce soit d'ailleurs à titre personnel ou professionnel, qui vraiment a une difficulté ou un échec même, qui t'a soit changé, soit qui t'a vraiment appris quelque chose de fort?
Sans doute. Non, mais le fait d'être au chômage, c'était hyper dur. Franchement, j'en ai perdu des cheveux et tout. Vraiment, ça m'a beaucoup perturbé, ça m'a énormément stressé. Après, des échecs.
Et tu penses que justement, le chômage, le fait d'être un peu dépendant d'un employeur qui t'accepte, ou fait que peut-être ça t'a poussé après à vouloir être une fois de plus ton propre chef, ou rien à voir a priori?
Je pense que ce que je me suis dit quand j'ai ouvert mon blog, en tout cas, c'était pour moi, c'était une sorte de super CV. Et je me suis dit, si les gens sont pas d'accord, parce que j'avais quand même des points de vue assez arrêtés, quoi, sur ce truc. Et je me suis dit, si les gens sont pas d'accord, c'est pas très grave, parce que de toute façon, on serait pas bien entendu. voilà. Est-ce que ça m'a poussé à être mon propre patron? Non, je crois pas. Mais enfin, le fait que les gens m'acceptent, oui, t'as toujours ce truc, hein, t'as toujours ce stress de se dire, est-ce que les gens vont m'accepter, etc. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Après, gros échec, j'ai pas de gros, enfin sans doute que si, hein, mais j'ai fait des énormes bourdes dans ma vie, hein, tu vois, vraiment. Hein. Moi, j'ai plein de souvenirs d'énormes bourdes, mais des gros, j'ai pas des énormes échecs où je me dis putain, c'est fou. Non, je crois que j'ai vachement de chance parce que je sais voir plus ou moins les opportunités. Mais si, enfin, un gros échec, et j'en ai fait quand même, si, il y a un truc quand même, c'est que je me dis qu'avec l'expérience que j'ai, j'aurais dû monter une boîte depuis hyper longtemps. Et il y a un truc, par exemple, que j'avais fait avec Jean-Noël, un pote, on voulait faire une box pour les animaux domestiques, et pour les chiens en l'occurrence. Et on avait fait ça hyper tôt. C'était génial comme projet, et on se dit on va aller voir Royal Canin, non, c'est pas intéressant, et on arrête. Et en fait, c'était ouf parce que maintenant il y a une boîte qui a fait la même chose, qui s'est vendue 300 millions, et je me dis putain, on a été con quand même, enfin. et des trucs comme ça où tu te dis t'arrêter au premier nom, c'était vraiment une grosse connerie, quoi. Je sais pas, c'est un énorme échec, mais c'était vraiment une connerie, par contre,
c'est sûr. Et quand tu disais que tu regrettes de pas avoir créé de boîte, tu veux dire dans le cadre de avec plus de consultants qui travaillent pour
moi,
toi?
Moi, je considère, non, ça j'aurais pas voulu faire, mais je considère que être consultant, c'est pas être entrepreneur, c'est vraiment différent.
C'est plus de liberté,
mais c'est surtout que t'es pas entrepreneur, quoi. Entrepreneur, tu construis un truc, tu construis un projet, quoi, t'emmènes des gens, il y a vraiment une idée derrière, enfin, tu vois, être consultant, indépendant, c'est pas du tout être,
c'est plus un lifestyle business.
C'est plus un lifestyle business qu'être entrepreneur, c'est pas du tout.
C'est vrai qu'être entrepreneur, c'est en général pas un lifestyle business.
Ouais, non. Et du coup, ouais, ça c'est un peu un regret. C'est aussi pour ça que tu vois, sur Ariany, je trouve ça cool, Plink, je trouve ça cool, parce que du coup, je crée quelque chose.
Ouais.
Et ça, je trouve ça, enfin, à cette période-là de ma vie, en tout cas, j'ai plus envie de ça aujourd'hui que.
Je comprends.
Et je me dis quand même, enfin, quand je vois, parce que moi, je me suis monté en même temps que Mashable, je veux dire, par exemple. Et je me dis, putain, Mashable, c'est vendu, je sais pas combien, peut-être 200 millions, je sais pas, enfin, j'en sais rien, peut-être 20, peut-être, je sais pas exactement, mais vraiment beaucoup d'argent, enfin, beaucoup, beaucoup trop.
Oui.
Et je me dis, putain, j'aurais pu faire ça.
Ouais, c'est sûr.
Enfin, il y a plein de trucs que j'ai vu passer, je me dis, putain, quand même, Greg, quoi.
Oui, t'aurais pu, t'aurais pu
essayer. Ça, c'est un peu, c'est pas des échecs, mais c'est des formes, je sais pas, de regrets non plus, mais ouais, c'est le truc que j'aurais pu faire, quoi.
Je comprends. Une autre petite question, on a parlé donc pas mal de sport puisqu'ils nous ont parlé de marche, mais est-ce que tu pratiques d'autres sports? Moi, je suis assez intéressée par tout ce qui est la fitness et tout.
Alors, moins que ce que je voudrais parce que j'ai mal au dos. En fait, j'ai eu plein de problèmes physiques la dernière, entre autres. Donc, j'avais mal aux genoux, j'avais mal au dos, j'avais mal à l'épaule, enfin bref. Mais normalement, je fais du yoga tous les matins. Je fais pas le yoga.
Tu pratiques quoi comme yoga? Un peu tout. D'accord.
Ouais, qui s'appelle Yoga Glow.
Ah oui, j'utilise aussi, elle est top. C'est en anglais, en revanche.
Ouais, ça rentre en anglais, effectivement. Je nage. en général une fois par semaine. J'avais l'habitude de courir, je cours plus du tout, j'ai jamais été un très grand coureur. Mm-hmm. Et là, ce que je me dis, bon, déjà, je marche, et pour moi, ça, c'est une forme de sport. Hein,
bien sûr. Surtout si tu as l'air de faire 10 km par jour, c'est quand ouais, même ouais. Conséquent.
Ouais, ouais, et parfois j'en fais 18, et, enfin, parfois j'en fais 6, hein, mais je marche. Donc, on met en moyenne 10, quoi, on va dire. Et après, ouais, je fais du gainage tous les matins. J'essaie de m'entretenir. Moi, le but, de toute façon, j'ai trop vieux pour essayer de gagner du muscle. Et puis, ça m'a intéressé quand j'étais beaucoup plus jeune. Maintenant, j'ai un peu passé l'âge. Mais par contre, de pouvoir me tenir droit quand j'aurai 70 ans, ça m'intéresse un peu plus, quoi.
C'est clair.
Donc là, j'avais fait du pilates à un moment donné. Mais c'est plus ces trucs-là qui m'intéressent que
de la fonte.
Ouais, j'en ai fait pas mal même, mais j'ai passé l'âge, quoi.
Et niveau alimentation, tu fais un peu gaffe ou pas du tout? Ouais.
Bah oui, oui et non, je suis hyper gourmand, donc voilà. Mais je mange des fruits tous les matins. Je fume pas, je bois pas une tonne d'alcool. Et je mange, j'ai vachement réduit parce qu'en fait, je pense que toi, j'en sais rien, mais en tout cas, dans les gens de notre génération, on a été éduqués dans l'idée que si tu mangeais pas de viande, t'avais pas vraiment fait de vrais repas. Et ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre que c'était pas vrai. Donc j'ai beaucoup, beaucoup réduit ma consommation de viande et de poisson. Je mange souvent, mais pas des tonnes. Donc oui, je fais quand même gaffe.
D'accord.
Ouais.
Et parce que c'est vrai que je me rappelle avoir entendu un de tes podcasts qui était très bien d'ailleurs sur justement sur tout ce qui était secteur de l'alimentation et notamment donc tout ce qui est, je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais les fermes locales, voilà, etc. Le côté locavore, ça c'est quelque chose que tu essayes de faire ou pas tellement?
J'adorerais l'idée, mais par contre j'achète rien, quasiment
rien de bio et de...
Si. Non, c'est l'inverse. Je n'achète quasiment rien au supermarché.
D'accord.
J'achète que au primeur, chez le boucher.
Ah ouais. Ça, c'est top.
Des magasins bio. Alors déjà, par plaisir. Mais aussi parce que c'est très égoïste, hein. Enfin, tu vois, souvent c'est très égoïste, ces trucs-là, hein. C'est que, enfin, tu le fais parce que t'as envie d'être en bonne santé, en fait.
Oui,
hein.
Oui.
Enfin,
ouais, mais c'est
pas vrai de dire que tu le fais pour la planète. moi, je vois des gens qui mangent bio et en fait, t'as le truc qui vient d'Afrique, quoi. Enfin, faut arrêter de déconner. Hein. Tu le fais pas pour la planète, quoi. Tu le fais pour toi. Enfin, c'est pas vrai.
Pas facile d'ailleurs, je trouve ça, parce que, moi je connais juste le secteur de la joaillerie, mais par exemple, dans le secteur du diamant, tu sais, qui est très décrié, en fait, il y a énormément effectivement de problèmes qui sont liés à ça. Mais d'un autre côté, ça fait vivre quand même des populations entières qui sont à des niveaux de quand même de salaires qui sont bien supérieurs à ce qu'on peut avoir dans d'autres pays d'Afrique. Donc c'est compliqué.
C'est
des
problématiques qui sont complexes, mais c'est vrai que se dire que t'as des haricots verts qui viennent d'Afrique alors que lui n'arrive pas à bouffer et qu'ils n'ont pas d'eau.
C'est horrible.
C'est un peu, tu te dis bon, il y a peut-être un souci quand même. Mais c'est vrai que je devrais consommer beaucoup plus local. J'y aspire, mais je le fais pas.
Moi non plus, je te rassure. Une question que je voulais te poser aussi, on en a un peu parlé avant de lancer le podcast, c'était les livres que tu peux me recommander. Alors, et en plus, tu m'as dit que c'était pas forcément des bouquins de management.
Non, parce que je lis pas des bouquins de business, j'en ai plein, mais je les lis pas. Je trouve ça chiant. C'est pour ça que j'en ai jamais écrit. Par exemple, tu vois, c'est un truc que j'aurais dû faire pour mes PR personnels. Mais je le fais pas, ça me fait chier. Je trouve qu'un bouquin de business, en particulier sur le digital où on est en train de bouger tout le temps, au moment où tu le sors, il est out of date.
C'est clair.
Et du coup, ça m'a toujours perturbé de me dire, mais je sors un bouquin, c'est vraiment que pour les pillards. Parce qu'en vrai, ton bouquin, personne va le lire, quoi. Déjà, enfin, moi, je le lirai pas personnellement, même si c'est le mien. j'ai pas envie d'infliger ça aux gens. Et puis aussi, il est dépassé au moment où il sort. Donc, quel est l'intérêt de sortir un bouquin? Donc, du coup, je l'ai pas fait. Et j'ai lu très peu de bouquins de business. Mais par contre, je lis plein de trucs différents, comme Sapiens, que beaucoup de gens ont lu. Homo Deus, qui était la suite, qui était un peu moins bien, mais voilà. Je lis beaucoup de bouquins de sociaux, sur plein de sujets différents. Par exemple, là, il y en a sur la race, il y en a un sur le sexe, il y en a un sur les cultures. Je lis beaucoup de romans comme Americana, comme Ligne de faille là, qui est devant nous, que j'ai lu il y a longtemps.
Je ne connaissais pas Ligne de faille de Nancy Hudson.
Hudson, ouais, qui est vachement bien. J'ai adoré un bouquin de Richard Barr qui s'appelle Le Messie récalcitrant. J'ai adoré The 40 Rules. Je sais pas, en français, ça veut faire les 40 règles d'amour. Je sais pas comment dire en français.
C'est ça.
Mais... Et j'ai cette chance de pouvoir lire en anglais, donc je.
Donc, t'as des lectures plutôt hétéroclites.
Moi je suis assez hétéroclite dans l'absolu.
Hein, donc... C'est bien, t'es curieux, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Bon, super. Écoute, pour terminer, j'ai toujours l'habitude de demander à mon invité s'il a quelque chose qu'il aimerait ajouter. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ? On n'a pas énormément parlé de Plink. Je ne sais pas si tu veux en parler plus.
De quoi, de faire de la promo de Plink ? Non, particulièrement. Enfin,
de ce que tu veux.
Non. Bah Plink, c'est bien.
Oui,
Plink,
bien.
Non, mais Plink, ça répond à un besoin des marques de se séparer des GAFA. Parce qu'en fait, le problème de la vidéo et de l'audio, c'est que, de la vidéo et du texte, c'est que t'es quand même très, très dépendant de Google et Facebook, en gros. Et que le format audio, du coup, t'as pas la dépendance.
Bah,
et ça,
Apple.
C'est quand même assez cool.
Hein. Apple,
oui, mais Apple, en fait, malgré tout, t'as tes abonnés et ils vont pas te les enlever. Genre, tu vas pas payer. Enfin, je crois pas à ça, pour le coup.
D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent, et tu parlais de Time to Sign Off un peu plus tôt, que le mail revient beaucoup à cause de ça, parce que finalement, c'est ton moyen de conserver
et
ton audience.
Et aux États-Unis, le direct mail. Donc, le courrier.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Les startups utilisent vachement le courrier.
Ah, c'est drôle.
Mais du courrier hyper qualitatif. Donc, toutes les boîtes, machin, en fait, le direct mail, ce qu'on appelle le direct mail, ça s'appelle comme ça aux US, en tout cas.
Donc,
le public postage, mais de qualité, fonctionne hyper bien. Moi, je crois beaucoup au retour de l'écriture. Je crois vachement à l'anti-digital, en fait. Hein. Je pense que.
Je vais peut-être mettre ça en titre du podcast Greg Pouy.
Ouais, mais moi ça me dérange pas. Je crois vachement. J'écris des lettres. Je crois beaucoup dans tout ça, moi.
Bah, en tout cas, je pense que le fait qu'il y ait les deux, c'est essentiel parce que sinon on se noie dans le digital.
Le digital, disons que c'est pour moi, c'est même plus. It's not a thing, quoi. Tu vois, je suis désolé de faire des anglicismes, mais parfois ça me vient en anglais. Mais c'est plus un truc. C'est-à-dire qu'on vit dans une. En fait, on vit dans une société digitalisée. Donc en fait le digital c'est plus un sujet en fait pour moi. Donc par exemple tu vois la conférence là qui a lieu en mai par Publicis autour du digital, pour moi faire une conférence sur le digital en 2018 c'est un peu un non-sens, c'est-à-dire qu'en fait
Vivatech tu veux dire?
Ouais. Ouais, je me souviens plus du nom. Vivatech pour moi c'est devenu un non-sens parce que le digital c'est tout, c'est rien, c'est partout. Donc faire une conférence sur le digital en 2018, c'est un peu tard, tu vois. Tu fais une conférence sur la blockchain, tu fais une conférence sur l'IA, tu fais une conférence sur des sujets spécifiques, oui, mais un truc sur le digital, enfin, tu vois, c'est la vie. Enfin, quand t'es dans Google Maps, dans la rue, t'es digital, t'es pas digital, ça veut dire.
Non, mais je suis complètement.
Pour moi, ça veut plus rien dire. Donc, du coup, dans cette société digitalisée, où on est allé hyper loin dans la digitalisation, etc., je pense qu'il y a une vraie place pour la vraie vie, pour les relations, pour l'humain, et je pense que l'humain va reprendre vachement plus de place. Voilà.
Bah écoute, c'est un beau mot de la fin, je te remercie. Greg, évidemment c'est facile, mais si on veut te trouver sur le web, quel est le meilleur moyen de te suivre, éventuellement de te contacter?
Alors j'ai un mot qui est ridicule, parce qu'en fait c'était mon pseudo Skype quand j'ai ouvert Skype il y a très très longtemps, et qui est partout, c'est Greg from Paris.
Bon, c'est pas ridicule, je te trouve ridicule.
C'était par rapport à Dimitri from Paris à l'époque, que j'adorais comme DJ.
Donc c'est at Greg from Paris sur Twitter,
ouais,
ça, c'est sûr.
Greg from Paris sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram,
du coup.
Si, sur Facebook, sur LinkedIn, enfin partout, c'est toujours Greg from Paris.
Parfait, mais écoute, je te remercie. On te contactera comme ça. Bah, merci mille fois. Et en tout cas, je mettrai les notes évidemment de tout ça et de toutes ces références sur le blog du podcast. À bientôt, Greg. Merci.
Ciao.
Alors avant de vous quitter, quelques dernières petites choses. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils qu'on a cités avec Greg, les livres, tous les petits tricks qu'il a pu donner, c'est simple. Allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, et là, vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers le blog du podcast. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités aussi, ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire. N'hésitez surtout pas directement sur Twitter ou Instagram. J'adore les feedbacks et j'adore les questions ou les suggestions d'invités. Le pseudo, c'est @pelaigneau, PLAIGNEAU, et j'essaye de répondre quand on me parle, donc foncez. Comme à chaque fois, je voulais prendre quelques instants pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu, surtout. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez bien évidemment me le dire et me dire que vous appréciez tout ce travail en mettant un petit mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes. Ça donne la pêche et ça aide à faire connaître le podcast. Merci pour tout et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.